J'ai marché dans les rues, mécanique, sans rien voir, la tête vide, serrant sous mon bras ce dossier qui réduisait à rien 40 années sur terre. Il pleuvait de plus en plus fort. Je suis entré dans un McDo, j'ai acheté des frites et pris des serviettes en papier pour éponger le dossier. J'ai lu les rapports de recherche, les comptes rendus d'interrogatoire. Tout était faux. Sans parler des erreurs de l'état civil, volontaires ou non, rien ne correspondait à ma mémoire, et je savais qu'elle était juste. Un souvenir peut être trompeur, on peut interpréter la réalité, se raconter des histoires, mais pas quand cela touche aux repères essentiels d'une vie, aux détails qui les soutiennent. Une aberration parmi tant d'autres. L'enquêteur prétend que, sur les deux grands huit de Coney Island, c'est le Thunderbolt qu'on a démoli et que le Cyclone est classé monument historique depuis 1991. J'ignore comment il a pu faire l'inversion, mais pour moi, c'est comme s'il affirmait que les tours du World Trade Center sont encore debout et que c'est l'Empire State Building que les terroristes ont détruit. Je revois le décor, le charme à l'abandon de Coney Island au crépuscule, avec les attractions fermées, les goélands tournant autour du pylône jaune et rouge du parachute jump, les jeunes entre deux chutes et les vieux Russes en fauteuil électrique qui roulent vers le ponton avec leur canne à pêche. Je vois les ouvriers encordés qui déboulonnent les rails du Cyclone, l'air désolé de mon père dans le carré de gazon en plastique devant la maison de briques, en contemplant ce dernier pan de sa vie qu'on démonte, gardien d'une attraction désaffectée. Responsable d'un amas de ferraille vendu au poids que les aciéries viendront chercher un jour. J'ai d'abord cru que l'enquêteur ne s'était même pas déplacé. Mais dans la liste des méprises qu'il affirme avoir relevées figure ensuite la John Dewey High School. Ce collège en bois au bord des dunes, voilà qu'il en fait un entrepôt marron entouré de barbelés entre le métro aérien et les bidonvilles climatisées de Brooklyn Sud. Pourquoi cette confusion ? Par distraction ou pour brouiller délibérément mes repères, ma conscience du passé, ma logique intérieure. C'est Rubinstein and Klein qu'il décrit, le grand magasin en face de la station Bay 15th Street sur la ligne W où j'ai travaillé 2 mois avant que mon père ne me fasse embaucher par Nathans. Je le sais quand même mieux que lui, c'est ma vie. C'est moi qui ai passé toutes ces années entre Coney Island et les bas-fonds de Brooklyn. Ces murs tagués au bord d'une rivière à déchets, ces caravanes accolées aux maisons sous les boîtes de clim. Ces escaliers anti-feu qui tombent en poussière de rouille quand on s'embrasse dessous, c'est ma jeunesse à moi. Qui est-il, cet anonyme, pour contester mon passé en mélangeant les noms, les lieux, les dates? Et s'il l'a fait exprès, pourquoi? Quant à mon département de Yale qui n'aurait été construit qu'en 2001, les bras m'en tombent. J'aurais rêvé tous ces matins depuis 11 ans où je gare ma Ford en face de l'Old Campus pour grimper la colline, sous les érables de Hillhouse Avenue jusqu'à l'Environmental Science Center. Et j'aurais vécu toutes ces années, sans m'en rendre compte, dans une Syrie, mariée à une femme que je n'ai pas épousée. Il y a tout de même un côté positif dans ces 3 pages de démenti. Si ma biographie n'est qu'une somme de bourdes et de mystifications, alors celui qui s'est installé à Paris sous mon nom est aussi bidon que moi. Ça me venge brièvement par rapport à ceux qui ont choisi de le croire lui, mais ça ne change rien au problème. La preuve que ce Martin Harris-là est un faux ne me rend pas davantage authentique. Pour une raison qui m'échappe, ce rapport fait de nous 2 imposteurs. Mais je ne crois pas à une somme de confusion involontaire. Comment expliquer que personne n'ait reconnu ma photo, à Greenwich comme à Yale, sinon par la malveillance de l'enquêteur? La question est de savoir qui a voulu effacer mon existence, rayer ma vie de l'état civil, me détruire aux yeux du monde et me détruire en double. Je relève les yeux. Autour de moi, des jeunes dévorent à pleines dents leur Big Mac, d'où s'échappent salades et cornichons. Accorde un regard vague à ce type absorbé dans ses papiers qui laisse refroidir ses frites. J'ai besoin d'extraire de ma tête tous les souvenirs qui se bousculent en riposte, qui me dispersent, en mêlent mes âges et mes lieux. Il faut que je les remette en ordre, que je réponde point par point. Je retourne la page titre et, le stylo coincé entre le pouce et le bandage, je commence à coucher par écrit le déroulement de ma vie, ma vérité sur les détails infimes et les événements clés. Une demi-heure plus tard, j'ai rempli le verso des 3 pages du rapport d'enquête et, Si je suis toujours aussi sûr de moi quant au fond, j'ai des doutes sur la forme. La disproportion saute aux yeux. Je suis d'une précision extrême sur des points sans importance et, tout à coup, j'ai 3 ans que je ne sais comment remplir. Et ce n'est pas tout. Pour se montrer à la hauteur de sa facture, le détective a indiqué en annexe la date à laquelle correspond le montant de la dette nationale figurant dans mon rêve. C'est le 2 octobre dernier. Le jour que Lise a cité ce matin, quand on parlait de sa cicatrice. Et je ne trouve rien dans ma vie, le 2 octobre. Un blanc complet. C'est peut-être encore l'effet du coma, l'excès de glutamate qui a hypertrophié certains souvenirs au détriment des autres, ou simplement la faute de l'inattention, de l'usure morale, de la routine dans laquelle chacun finit par se laisser enfermer, même ceux qui se croient à l'abri derrière une passion. Ma passion pour les plantes n'aura fait que protéger ma capacité de travail. Affectivement, ma vie est un désastre sous des dehors rangés, un échec banal, un bilan de misère que je ferais mieux d'oublier. Je repousse les feuilles écœurées. Je n'ai plus la force ni l'envie d'aller surfer sur Internet pour imposer mes arguments, prouver ma bonne foi, dénoncer les mensonges. Pourquoi ne pas lâcher prise, tirer un trait sur ce gâchis, recommencer ma vie ailleurs ou me jeter sans remords dans la Seine où j'aurais dû rester? Tout le monde me ment, personne n'a besoin de moi. Je les dérange tous et je n'ai plus le cœur à me battre. Au milieu des clients qui tournent avec leur plateau en attendant que je libère ma place, un visage se compose, une voix me retient. La seule personne qui m'ait cru, qui m'ait tendu la main sans arrière-pensée, qui ait été gentille avec moi pour rien. Je descends aux toilettes, décroche le téléphone mural sous les pleurs d'un bébé qu'on change. Muriel répond à la deuxième sonnerie.
« Martin, enfin, ça fait 2 heures que j'attends votre appel. J'ai une nouvelle géniale. »
Je m'apprête à me réjouir pour elle, mais elle enchaîne.
« J'ai eu votre assistant, il a fini par répondre. »
Rodney Cole ?
Et en plus, il parle français, j'y croyais pas. Il a été complètement sur le cul d'apprendre ce qui vous arrivait. Il est comme vous, il comprend rien au jeu de votre femme, mais il paraît qu'elle est en dépression depuis des mois. C'est un mec formidable. Il m'a dit « Je rassemble toutes les preuves que Martin est bien Martin et je saute dans l'avion. Il sera là demain matin. »
Attendez, attendez, Muriel. Vous m'avez décrit physiquement ?
Bien sûr. Et j'ai décrit l'autre fumier. Eh oh, vous n'allez pas vous mettre à douter de vous maintenant que nous avons la preuve.
Le nous se répercute dans le bruit de la circulation, à l'autre bout du fil. Je ferme les yeux pour bloquer mes larmes.
Je finis à 16 heures, je prends Sébastien à l'école et on se retrouve chez moi, d'accord ? Vous vous rappelez l'adresse ?
Oui. Et Rodney ?
Demain matin, 9 heures, au Sofitel de la Porte Maillot. Ça marche ?
Je murmure merci. Je raccroche, appuie mon front contre le mur.
J'ai passé tant d'heures à lutter en vain contre l'absurde que maintenant où la réalité me donne enfin raison, j'ai du mal à y croire. Pourquoi Rodney, cet arriviste aux prudences vigilantes, aux lenteurs calculées, se donne-t-il soudain autant de mal pour moi ? Alors qu'il ne m'a même pas reconnu sur photo.
Cela dit, je ne me souviens pas de l'avoir vu mentionné, sinon dans ma liste des personnes à contacter.
Je remonte brusquement à l'étage, me replonge dans les feuilles que j'ai laissées sur la table. À aucun moment, l'enquêteur ne précise le nom des gens à qui il a montré mon visage à Yale. Il dit « Ses collègues de l'unité de botanique, le doyen de son département ». À tous les coups, ce tocard est allé à la School of Forestry de Prospect Street, nos concurrents qui nous disputent les crédits de recherche. Évidemment, ils l'ont pris pour un journaliste et personne n'a voulu me faire de la pub. Ils ont même raconté que l'Environmental Science Center n'avait qu'1 an d'existence pour le dissuader d'aller faire son reportage sur moi. Le doyen a dû lui vendre son ancienneté prestigieuse, le crédit poussiéreux de ses archives, le taux de réussite de ses étudiants pistonnés, son programme de conférencier ringard et l'autre crétin n'y a vu que du feu.
Je replie les feuilles avec un sourire de revanche, en imaginant les réactions de Muriel tout à l'heure, devant ce rapport, ce monument de mensonges et d'incompétence qui, finalement, me rend hommage en voulant me gommer. J'ai hâte de la rejoindre, de me retrouver dans ses yeux tels qu'elle me voit. Dommage qu'elle ne soit pas plus sexy. Le désir que m'a laissé la petite vendeuse de tendance D me remonte à la gorge, avec toutes ces lycéennes à Big Mac qui discutent autour de moi. Tant d'années de frustration, de scrupules, d'envie refoulée sous les ormes de l'Old Campus, quand les silhouettes moulées de mes étudiantes et leurs sourires acquis se découpaient sur les façades gothiques. Toutes ces tentations dominées pour rester fidèle à mon image de professeur intègre, quel que soit le dénouement de ma situation présente, je ne veux plus de cette vie.
Fin du troisième disque.